Midi et demi, en temps universel, il est 14h30 ici à Paris. Vous êtes sur RFI et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Le spectre d'un nouveau drame de l'émigration clandestine au large du Sénégal. Une pirogue avec au moins 150 passagers a chaviré hier après-midi au large de Mbour. 20 rescapés ont été secourus, les recherches ont repris ce matin. En Algérie, le président sortant Abdelmadjid Tebboune déclarait réélu, sans surprise, pour un deuxième mandat. L'ANI, l'instance électorale, le crédite de plus de 94% des voix. Le taux de participation provoque toutefois une polémique. Il serait en fait deux fois moins élevé que l'estimation de 48% évoquée samedi. En Côte d'Ivoire, le FPI de Pascal Affine-Guessant rompt avec la coalition présidentielle du RHDP. Nous verrons pourquoi. Et puis la guerre au Soudan, alimentée par de nouvelles armes et de nouveaux équipements militaires venus de pays étrangers. Conclusion d'un rapport de Human Rights Watch. À trois jours d'une réunion cruciale du Conseil de sécurité, l'ONG appelle à une extension de l'embargo en vigueur pour le Darfour à l'ensemble du pays.
Jean-Baptiste Galopin, analyste à Human Rights Watch, est l'invité d'Afrique Midi aujourd'hui.
Au Sénégal, les recherches sont toujours en cours ce matin suite à ce nouveau drame de l'émigration clandestine. Une pirogue avec à son bord au moins 150 passagers a chaviré hier après-midi au large de la ville de Mbour. On est à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. Notre correspondante au Sénégal, Léa Lisa Westerhoff, est en route. Elle nous appelle dès qu'elle est sur place. Le Sénégal, où un accident de la route a provoqué ce matin 16 morts et 22 blessés. Collision entre un bus et un camion. Le bilan est fourni par les sapeurs-pompiers. L'accident s'est produit sur la route nationale numéro 3 près de la localité de Ngandalma. Le Sahel, frappé par des inondations dramatiques, le Tchad notamment. Le bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, N'Djamena, a publié ce week-end un nouveau bilan. François Mazet, le nombre de victimes a plus que doublé en une semaine.
Oui, 341 décès ont été répertoriés par les équipes d'OCHA en date du 3 septembre contre 145 une semaine plus tôt. Tous les indicateurs, Nicolas, montrent l'augmentation des effets de la catastrophe sur le même laps de temps. Le nombre de personnes affectées, près d'1,5 million, a augmenté de 50%. Le nombre de maisons détruites, 164 000, et de têtes de bétail perdues, 66 000, a doublé. Je rappelle que l'élevage est une activité économique centrale au Tchad. Selon le Comité national de prévention et de gestion des inondations, 19 provinces sur 23, 115 départements sur 120 sont touchés, en particulier la région du Lac et les régions du sud du pays, mais aussi les quartiers périphériques et populaires de N'Djamena, la capitale, où l'on craint que cette situation empire et où l'activité économique est largement ralentie. Cela fait près de 4 semaines maintenant que le pays subit ces inondations. Otcha craint encore des crues plus importantes des fleuves Logone et Chari. Les Nations Unies estiment le plan de réponse nécessaire à 97 millions de dollars américains. Mais pour le moment, Nicolas, moins de 10% sont disponibles.
En Algérie, les trois candidats à la présidentielle ont publié hier soir un communiqué commun dans lequel ils critiquent les résultats provisoires proclamés par l'autorité électorale, l'ANI. Mohamed Charfi, le président de cette autorité, a annoncé hier une victoire du président sortant Abdelmadjid Tebboune avec plus de 94% des voix. Mais les chiffres publiés font polémique, Ouda Ibrahim, notamment ceux de la participation.
Oui, Nicolas, dans une démarche inédite et lors d'un communiqué commun, les directeurs de campagne de trois candidats à la fonction suprême en Algérie dénoncent, je cite, « des ambiguïtés, des imprécisions, des contradictions et des incohérences qui ont été relevées dans les chiffres lors des résultats provisoires ». Les trois candidats ont mentionné aussi une erreur dans l'annonce des pourcentages pour chaque candidat. Ils indiquent que le procès-verbal à leur disposition ne correspond pas aux chiffres proclamés, à savoir 94% pour le président sortant Tebboune, 3,1% des voix pour le président du parti islamiste modéré MSP Abdallah Ali Hassani, 2,16% pour Youssef Aouchiche du Front des Forces Socialistes. Ce communiqué commun est publié alors que les chiffres de participation de l'ANI font eux-mêmes l'objet de polémiques après avoir estimé samedi que plus de 48% des électeurs se sont déplacés aux urnes. L'ANI a annoncé hier que 5 600 000 personnes ont participé au scrutin. Le corps électoral comptant près de 24,5 millions d'électeurs, le taux de participation ne devrait pas dépasser 23%. Mais l'autorité électorale algérienne ne s'est pas expliquée sur ces contradictions. Elle a simplement réagi aux critiques dans la soirée d'hier en indiquant qu'elle continuait à recevoir les procès-verbaux de dépouillement qu'elle transmettra des réceptions à la Cour constitutionnelle.
Oui, on s'acheminerait plutôt vers un taux de participation historiquement faible. Un taux de participation qui prive le président Tebboune de légitimité, estime Zoubida Assoul, présidente du parti d'opposition, l'Union pour le changement et le progrès, elle n'a pas pu se présenter.
Si on regarde encore une fois le taux de participation, je peux déjà vous dire que le fossé est de plus en plus énorme entre les citoyens et le pouvoir en place. La légitimité, c'est quoi? C'est l'adhésion de, au moins d'une grande majorité du peuple autour d'un projet, que ce soit d'un président sortant ou d'un autre candidat. Or, ce n'est pas le cas. Quand vous regardez que le corps électoral est composé de plus de 24 millions d'électeurs et d'électrices et qu'au finish, il n'y a que 5,5 millions à peu près de votants. Donc, je ne pense pas qu'un président dont le corps électoral ne dépasse pas les 23%, on puisse parler de légitimité populaire.
Des propos recueillis par Alexandra Brangeon. Et on retrouve à présent Léa Lisa Westerhoff à Mbour, sur la côte sénégalaise, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. Léa Lisa, des recherches sont toujours en cours ce matin, après qu'une pirogue avec au moins 150 passagers à bord a chaviré hier après-midi.
Oui, pour l'heure, pas de bilan définitif encore. Quatre corps sans vie ont été repêchés en fin de matinée par un bateau de la surveillance des pêches. Des corps qui viennent s'ajouter aux quatre personnes noyées retrouvées dès hier par les pêcheurs venus à la rescousse de la pirogue en détresse. En tout, 24 personnes ont pu être sauvées, 3 hommes sont encore à l'hôpital, mais ce bilan va sans aucun doute évoluer, s'alourdir sans doute, car on ne sait même pas avec certitude combien de passagers, 150 ou plus, étaient à bord de cette pirogue. Le bateau, en tout cas, a quitté l'une des plages de Mbour hier en milieu d'après-midi, direction les îles Canaries, avant de faire naufrage une trentaine de minutes plus tard, à 3 km des côtes sénégalaises. Ce sont des pêcheurs qui, les premiers, sont venus à l'aide avec leur pirogue pour repêcher les corps, les survivants et donner l'alerte. Ce matin, la Marine nationale effectuait des patrouilles en mer pour tenter de trouver des survivants. Et sur le quai de pêche de Mbour, l'émotion est vive parmi les nombreuses personnes qui attendent ici des nouvelles.
Léa Lisa Westerhoff, correspondante de RFI au Sénégal en direct de Mbour. L'actualité politique en Côte d'Ivoire, où le Front populaire ivoirien de Pascal Affine Guessan rompt son accord de partenariat avec le RHDP. Un accord qui avait été signé il y a un an et demi. L'objectif était de nouer des alliances électorales et de travailler sur la réconciliation. Binta Diagne, vous êtes en direct d'Abidjan. Que reproche le FPI au parti au pouvoir?
Alors, le FPI estime que son accord de partenariat avec le RHDP est devenu préjudiciable, sans objet et caduque, lit-on dans un communiqué. Le FPI explique avoir proposé un séminaire sur la réconciliation nationale, séminaire que le RHDP aurait refusé. Depuis le 2 mai 2023, date de la signature d'un accord de partenariat entre les deux formations politiques, aucune action conjointe n'a été entreprise par les deux parties en faveur de la réconciliation nationale, déplore le FPI. La fracture, Nicolas, remonte surtout aux élections municipales et régionales du 2 septembre de l'année dernière. Le FPI reproche au RHDP de ne pas avoir joué le jeu des alliances, ce qui a entraîné la perte de deux mairies et surtout celle du conseil régional du Moronou, où le président du FPI, Pascal Affine Guessan, a été mis en échec dans son propre fief. La direction du RHDP prend acte de cette décision. Joint par RFI, Kobe Nankwasi Adjoumani, le porte-parole du RHDP, relativise l'ampleur de l'accord de partenariat. Il évoque davantage une forme de cohabitation, selon ses mots. Pascal Affine Guessan a été fautif dans l'organisation de sa campagne au local, estime Kobe Nankwasi Adjoumani, pour qui l'échec du FPI à ses élections locales n'est pas lié au RHDP. Quant à l'appel au rassemblement de l'opposition prononcé le 14 juillet dernier par l'ancien président Laurent Gbagbo, eh bien le FPI prend acte de cet appel et il entend se positionner, je cite, « au moment opportun ». Dans les faits, le FPI tiendra un congrès les 8 et 9 novembre prochains à Yamoussoukro pour sans doute désigner son candidat à la présidentielle d'octobre 2025 et surtout clarifier son positionnement sur la scène politique actuelle.
Binta Diagne, correspondante de RFI à Abidjan. Les incertitudes, toujours une semaine après la répression d'une tentative d'évasion à la prison de Makala, en République démocratique du Congo. Incertitude sur le nombre de morts, 129 selon les chiffres officiels. Incertitude aussi sur le nombre de prisonnières victimes de viols. Les autorités avancent le chiffre de 156 femmes violées sur les plus de 300 détenues. Un chiffre invérifiable pour les ONG de défense des droits des femmes, qui regrette de ne pas avoir accès à la prison pour venir en aide aux victimes. Même détenues, ces femmes ont des droits, martèle José Kitoko de l'organisation Filles et Femmes en Action pour la promotion, la protection et la défense des droits.
Les femmes ont été violées. Dans l'endroit le plus sécurisé, c'est au-delà de l'entendement. Toute femme a des droits. Elle a commis une infraction ou pas. Toutes les femmes qui sont en prison, ce n'est pas toutes les femmes qui ont été jugées. Il y a des détentions préventives. Cette femme-là, qui n'était pas encore devant son juge, elle était violée. Et peut-être qu'elle est innocente, mais elle vient de subir encore une autre atrocité. Nous demandons qu'ils nous laissent l'accès, puisque ces femmes-là doivent porter plainte. Ils ont besoin des soins appropriés. Ils n'ont pas de kit pour les soins après le viol. La prise en charge, c'est dans 72 heures. Mais lorsqu'il y a déjà dépassement des délais par rapport à la prise en charge, on s'entend à beaucoup de choses. Des maladies sexuellement transmissibles, le VIH, les grossesses non désirées. C'est inadmissible.
Les autorités qui ont commencé à entendre vendredi en audience foraine les détenus accusés d'être responsables de ces viols. Déboutés en première instance, des métis belgo-congolais font appel contre l'État belge. Ils seraient entre 14 et 20 000, nés d'un père colon venu de Belgique et d'une mère africaine. Des indigènes, disait-on dans le vocable colonial belge du Congo et du Rwanda-Urundi à l'époque, des indigènes soustraits de force à leur maman. Cinq femmes aujourd'hui âgées de plus de 70 ans dénoncent un crime contre l'humanité, Pierre Benazet.
En première instance, le tribunal avait conclu que l'État belge ne pouvait être aujourd'hui puni pénalement du chef d'accusation de crime contre l'humanité pour des faits qui, à l'époque, n'étaient pas qualifiables d'un tel crime. La plainte portait sur la période 1948-1961. Elle concernait l'ensemble de la politique de placement d'enfants métis dans des institutions religieuses coloniales pour des motifs raciaux. À l'époque, le colonisateur avait affirmé qu'il s'agissait de leur donner une éducation européenne, mais en réalité il y a eu une véritable politique concertée pour arracher ces enfants à leur mère, même si leur père ne les avait pas reconnus, et pour les rendre en quelque sorte invisibles, car leur existence même remettait en cause la suprématie raciale de l'ordre colonial. Les avocats des métis vont plaider en appel qu'en réalité il s'agissait déjà à l'époque d'un crime contre l'humanité, et qu'il faut appliquer à la politique coloniale d'après-guerre les mêmes principes que le tribunal de Nuremberg a utilisés pour le régime nazi au sujet des crimes contre l'humanité. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Il est 14h43 à Bruxelles.
Afrique Midi sur RFI. Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, du football, Nicolas Sieur.
Oui, la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. On passera en revue les grands duels du jour. La fin des Jeux paralympiques, nous faisons le bilan côté africain. Et puis nous irons au FNB Art Jobourg qui se tenait ce week-end en Afrique du Sud. Un rendez-vous incontournable de l'art contemporain sur le continent. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce lundi, au moins 52 personnes tuées au Nigeria dans une explosion provoquée par la collision entre un camion-citerne et un camion transportant des passagers et du bétail. La collision a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche sur une route dans la région de Dagaye, dans l'état du Niger. Deux autres véhicules, une grue et une camionnette, ont aussi été impliqués dans l'accident. Une cinquantaine de vaches ont d'ailleurs été brûlées vives. Les sports et la suite de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. 8 matchs au programme aujourd'hui, Christophe Jousset, et les Léopards de RDC qui visent une deuxième victoire.
Oui, après avoir battu la Guinée vendredi à Kinshasa, la RDC est en déplacement en Tanzanie pour affronter l'Éthiopie. Des Éthiopiens condamnés à recevoir hors de leur pays, faute de stade homologué chez eux. L'objectif des Léopards est d'enchaîner et le nom de l'adversaire pourrait inciter à l'optimisme, mais le sélectionneur Sébastien Desabre est là pour tempérer.
Un match ne ressemble pas. Là, c'est deux équipes qui ont de l'ambition. L'Éthiopie est une belle équipe aussi dans l'organisation de jeu. Donc c'est quelque chose qui va être difficile à manœuvrer. Maintenant, on va y aller avec forcément un mental au beau fixe et beaucoup de motivation pour essayer de se mettre encore mieux en phase de démarrage pour cette qualification.
Sébastien Desabre avec Olga Massangou, objectif 6 points aussi pour le Congo-Brazzaville. Après sa courte victoire sur le Soudan du Sud, il joue tout à l'heure en Ouganda. Idem pour l'Angola et le Soudan, vainqueurs chacun de leur côté lors de la première journée et qui se croisent aujourd'hui à Luanda.
Au Malawi, on scrutera dans quelques instants la réaction du Sénégal en plein désamour avec son public.
Oui, le coup d'envoi approche, c'est dans un quart d'heure à Lilongwe au Malawi donc, mais face au Burundi. Vendredi à Diamniadio, les Lions étaient sortis sous les sifflets après le nul concédé à la dernière minute face au Burkina Faso. Pour le défenseur sénégalais Abdou Diallo, ce n'est pas au sélectionneur Aliou Cissé qu'il faut s'en prendre.
C'est nous qui sommes sur le terrain, on n'a pas l'habitude de se cacher ou de se trouver des excuses. On a nos responsabilités à prendre et il va falloir qu'on réponde présent. On est habitué à jouer très régulièrement, souvent tous les trois jours, et à avoir l'opportunité de, entre guillemets, se racheter et de performer trois jours plus tard. C'est le cas aujourd'hui. Donc on a vite basculé sur le match d'après. Ce qui est fait, on ne peut pas le changer, même si on aurait aimé. Mais par contre, ce qui doit être fait, j'espère, va l'être.
Abdou Diallo au micro de Babacar Fall. À suivre encore aujourd'hui, Guinée équatoriale Togo, Madagascar Comores, Niger Ghana et Lesotho Maroc.
Premier résultat dans Afrique Soir à partir de 20h30, heure de Paris. Le rideau est tombé hier soir sur les Jeux Paralympiques de Paris à l'heure des bilans sur les 42 pays africains engagés. 10 sont finalement montés sur les podiums. Rien pour les autres, même si certains pays sont passés tout proches d'une médaille, comme le Cameroun ou le Sénégal, Martin Guez.
De l'enthousiasme à revendre malgré la défaite, personne n'attendait Idrissa Keïta, le jeune Sénégalais de 21 ans au taekwondo. Il échoue au pied du podium, lui qui découvre à peine la discipline.
Taekwondo look, taekwondo forever. Moi je fais le taekwondo même pas 2 mois.
Le natif de Kaola a été repéré par hasard sur une plage de Dakar par son entraîneur Abdoulaye Ndiaye.
Il était à 2 cm d'avoir cette médaille, mais ce n'est que partie remisante. On se donne rendez-vous. Là on aura un peu de temps pour travailler ça et se préparer. Lorsqu'il va revenir ici, ça va faire mal.
Une autre qui peut faire mal, c'est la Camerounaise Marie-Antoinette Dassi. Même discipline, même profil qu'Idrissa Keïta. Sortie de nulle part, la native de Batier échoue elle aussi en petite finale pour le bronze.
Je n'ai jamais fait une compétition internationale, je n'ai jamais fait le championnat du monde, ce qui fait que beaucoup de candidats ici là. Je ne suis jamais passé avec eux, c'est ma première compétition au jeu. Je me fais l'honneur de pouvoir décrocher une médaille pour mon pays.
Celui qui a été le plus proche d'une médaille pour son pays, c'est sûrement le Sénégalais Edmond Sanka ce samedi en canoë. L'ancien parachutiste du camp de Tiaroy, 38 ans, espère pouvoir revenir en 2028 à Los Angeles.
J'ai fait 5e. C'est très très difficile. Je voulais rester ici, continuer à bosser pour 2028. Je veux qu'ils m'aident, je veux qu'on renouvelle nos bourses, on continue à s'entraîner ici.
Continuer à s'entraîner en France pour Edmond Sanka et un mot d'ordre commun à tous les athlètes, qu'on leur donne les moyens de leurs ambitions.
La foire de l'art la plus importante du continent, la FNB Art Johannesburg, se tenait ce week-end en Afrique du Sud. 100 artistes venus de 14 pays y exposaient. Ce rendez-vous incontournable accueille de plus en plus de collectionneurs du continent. Des détails sur le www.rfi.fr. Il est 14h49 à Paris. Anne Kantner, les grands titres de ce lundi 9 septembre.
16 personnes au moins tuées lundi dans une série de frappes sur des sites militaires. Ça s'est passé dans le centre de la Syrie. Les autorités accusent Israël qui vient de mener une opération violente à Jenin en Cisjordanie occupée ces derniers jours. Ce type de raid aggrave une situation calamiteuse, dit le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Situation déjà exacerbée par les violences meurtrières des colons. L'Union européenne assure que les Occidentaux disposent d'informations crédibles sur des livraisons de missiles balistiques iraniens à la Russie. L'Iran dément, mais Moscou, non. Google devant la justice américaine. Le groupe est accusé par les autorités d'étouffer complètement la concurrence en matière de publicité. C'est le deuxième grand procès en un an aux États-Unis pour l'entreprise. Et puis l'image accolée à l'abbé Pierre sera maintenant celle d'un prédateur sexuel. Déclaration du directeur d'Emmaüs International après de nouvelles révélations sur les agressions commises par cette figure française engagée toute sa vie aux côtés des plus pauvres. Le directeur d'Emmaüs International était notre invité à 11h10, temps universel. Entretien à réécouter sur RFI Pure Radio. C'est peut-être le conflit le plus destructeur qui fasse rage aujourd'hui sur la planète. La guerre qui a éclaté au Soudan entre l'armée nationale du général Bourane et les paramilitaires FSR du général Emeti est alimentée par de nouvelles armes. Des armes fabriquées à l'étranger. Voilà ce que dit aujourd'hui un nouveau rapport de l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Jean-Baptiste Galopin est chercheur principal à la division crise, conflits et armes de cette organisation et il est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Jean-Baptiste Galopin.
Bonjour.
Qu'il y ait des armes au Soudan, ça n'est pas nouveau. Ce que vous établissez, c'est que de nouvelles armes venues de pays étrangers sont arrivées depuis le début du conflit en avril 2023. D'abord, on parle de quel type d'armes ?
Écoutez, nous avons enquêté sur la base de publications que l'on a pu trouver sur les médias sociaux hein, qui nous montrent des armes nouvellement acquises par les parties au conflit. Ça inclut des drones armés, des brouilleurs de drones, des missiles anti-chars guidés, des lance-roquettes multiples montées sur camions et des munitions de mortier.
Des équipements qu'on ne trouvait pas au Soudan hein, avant avril 2023.
Voilà, alors les forces armées soudanaises avaient accès à de nombreuses armes étrangères hein, avant le conflit qui a éclaté en avril de l'an dernier et une industrie également locale de fabrication d'armement. Mais les armes que nous présentons dans ce rapport et les équipements que nous présentons sont, selon nous, nouvellement acquis hein, et fabriqués à l'étranger, notamment en Chine, en Iran, en Russie, en Serbie et aux Émirats arabes unis.
Et ça concerne donc les deux camps, aussi bien l'armée nationale du général Bourane que les paramilitaires FSR du général Emeti. Même phénomène chez les deux belligérants.
Alors, même phénomène, hein, avec probablement des méthodes d'acquisition différentes, même si notre rapport n'a pas pu établir les façons exactes dont les parties ont acquis ces armes et cet équipement. Les forces de soutien rapide, donc les RSF, utilisent des drones d'attaque avec des munitions fabriquées en Serbie, des missiles anti-chars, ainsi que des brouilleurs de drones, alors que les forces armées soudanaises, donc l'armée, font usage de drones de fabrication iranienne, de drones d'attaque, ainsi que de différents types de drones d'attaque de plus faible envergure et de brouilleurs de drones également.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas précisément la manière dont ces armes sont arrivées au Soudan, si elles ont été achetées directement dans les pays concernés ou s'il y a eu des intermédiaires.
Voilà, on n'a pas d'informations sur la chaîne exacte hein, de transmission, mais des éléments qui sont indicatifs, notamment nous avons documenté la présence de munitions de mortier fabriquées en Chine en 2023, hein, que les RSF utilisent, mais dont ils allèguent qu'elles auraient été capturées aux forces armées soudanaises. Nous avons également des images hein, de caisses de ces munitions serbes indiquant que ces munitions avaient préalablement été achetées par l'armée des Émirats arabes unis, probablement avant l'éclatement du conflit au Soudan, avant d'arriver dans les mains des RSF. Le groupe d'experts de l'ONU a indiqué que les Émirats arabes unis soutiendraient les RSF, notamment depuis le Tchad. Donc nous avons des éléments qui sont indicatifs. Par ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à avoir travaillé sur ce sujet. Hein. Les médias ont fait état de différents vols d'une compagnie aérienne iranienne liée au gouvernement iranien hein, vers Port-Soudan, possiblement pour la livraison de ces drones Mohajer 6. Également, Amnesty International a publié récemment un rapport indiquant que les forces armées soudanaises et des vendeurs d'armes proches des forces armées soudanaises avaient acheté des armes à feu auprès d'entreprises russes et turques.
Ce que vous dénoncez aussi, hein, c'est que ces armes, si elles sont utilisées partout, le sont aussi au Darfour, qui est pourtant soumis à un embargo des Nations Unies.
Oui, et cet embargo, je dirais, a fait l'objet de critiques hein, et depuis sa création en 2004, notamment puisque le groupe d'experts de l'ONU qui suit son application a bien montré que la Biélorussie, la Russie, la Chine hein, l'ont violé très, très rapidement dans les années qui ont suivi son établissement. Néanmoins, c'est un embargo qui vient avec des mécanismes de sanctions ainsi qu'un groupe d'experts qui suit la situation dans le pays. Ce qui est très important pour l'ONU aujourd'hui, puisque le gouvernement soudanais a forcé la mission de l'ONU qui était présente au Soudan depuis quelques années à plier bagage l'an dernier. Donc l'ONU aujourd'hui se retrouve avec très peu de moyens de surveillance et d'information sur ce qui se passe dans le conflit soudanais. Donc, nous appelons à ce que ce mécanisme de sanction avec cet embargo sur le Darfour soit renouvelé, puisqu'il y a un vote crucial qui aura lieu
mercredi.
Le 11 septembre. Voilà. Mais c'est pas suffisant selon nous. L'embargo a été établi pendant le premier conflit au Darfour le conflit des années 2000, qui concernait principalement cette région. Aujourd'hui, c'est la majorité du Soudan qui est donc touchée par ce conflit qui a éclaté l'an dernier, avec des millions de personnes qui ont été déplacées, des millions qui font face au risque de famine et d'innombrables personnes qui ont été tuées. Donc, il est évident qu'un embargo qui se restreigne à la région du Darfour n'est pas suffisant.
Pour vous, il est fondamental qu'il soit étendu sur tout le pays.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment crucial. Par ailleurs, il faut que son application soit renforcée, puisque jusqu'à présent, il n'y a qu'un individu qui a été sanctionné pour violation de cet embargo. Donc, il est crucial que les membres du Conseil de sécurité sanctionnent les individus et les compagnies qui sont en violation de cet embargo, mais également dénoncent publiquement les États qui violent cet embargo.
Merci Jean-Baptiste Galopin. Je rappelle que vous êtes chercheur principal à la division crise, conflits et armes de l'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Et on s'intéresse à présent à un grand artisanat du continent, celui du pagne tissé. Il s'affiche dans la vie quotidienne, comme dans les moments exceptionnels. Au Sénégal, il est dans toutes les maisons et accompagne les moments clés de l'existence, les baptêmes, les mariages et les décès. Dans le quartier de Médina à Dakar, le reportage de Juliette Dubois.
Dans une petite maison du quartier de la Médina, Marem Sow vit avec sa mère, Binta. Cette quinquagénaire pleine d'énergie ouvre les placards et sort des valises cachées sous des lits pour nous faire découvrir sa collection de pagnes tissés.
On peut aller voir les autres aussi.
Non, attends, il y a beaucoup de bagages là-bas, je vais aller voir.
Les précieuses étoffes sont enroulées avec soin et protégées du soleil qui peut abîmer les couleurs vives.
Vous avez beaucoup de pagnes ?
Oui, j'ai beaucoup de pagnes. Moi, ça, c'est très joli. Ça, c'est maman qui l'a acheté ? C'est notre tradition.
Ces pagnes tissées et brillants aux motifs géométriques sont des trésors de famille. Certains ont été offerts pour les baptêmes de ses quatre enfants.
Si on a un baptême, on offre les pagnes là. Tout ça, on m'a offert ça. Le mari de ma fille, c'est maman qui m'a donné ça. Chaque personne me donne une pagne pour lui porter la bonne chance, la réussite. Ce sont des pagnes de chance.
D'autres sont encore neufs et seront offerts pour les naissances à venir dans la famille. Les bandes de tissu d'une vingtaine de centimètres seront alors assemblées pour faire un grand pagne.
Je l'ai acheté pour préparer pour mes petits-fils.
Cela, c'est pour les petits-fils.
Ouais. Qui n'ont pas encore né encore. Je me prépare en avance.
J'ai acheté ces tissus il y a longtemps. J'ai l'habitude d'en acheter quand j'ai de l'argent et de les garder, ou j'appelle un Ndiago pour qu'il m'en tisse un que je conserve.
Les pagnes réalisées par des Ndiago, des tisserands Mandjak installés dans le quartier de Fass, accompagnent toutes les célébrations. Ils sont aussi utilisés au moment du mariage ou encore au décès pour recouvrir le mort, comme l'explique Binta Ndoy, la mère de Marem qui a 87 ans.
Le reste des pagnes, je les garde. Je ne le souhaite pas, mais en cas de décès, cela va servir à couvrir le corps jusqu'au cimetière. Ensuite, on me ramènera le tissu que je conserverai.
Un beau pagne noir et orange est déjà destiné à un futur défunt. Ces traditions sont aussi une richesse qui se transmet. Les petits-enfants de Marem conserveront eux aussi les étoffes chez eux. Et certains des pagnes tissés qu'elle nous présente étaient déjà à la grand-mère de Marem.
On l'a vu souffrir à ses enfants. La maman, lorsqu'elle est décédée, ces pagnes, on les donne à chaque enfant un pagne pour souvenir.
Chaque pagne que Marem range dans son armoire est une pièce et une histoire unique. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et c'est à Dakar que se referme cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Corot, Mickaël Goncalves et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain Nicolas Sûr. Restez avec nous sur RFI dans deux minutes selon votre zone d'écoute dans le monde, le journal d'Haïti et des Amériques, ou bien une demi-heure d'information en full day si vous êtes en Afrique de l'Ouest, ou encore en portugais si vous vous trouvez en Afrique lusophone. Dans tous les cas, restez bien sur RFI et à tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
Vos questions sur l'hypertension artérielle et la santé cardiaque.
Mercredi.
Les pollutions associées à la consommation de médicaments.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Il est encore temps de participer au concours vidéo hip-hop proposé par RFI Planète Radio en partenariat avec l'Institut de Recherche pour le Développement.
Prenez vos smartphones et captez le ressenti des femmes et des hommes qui affrontent les conséquences des changements environnementaux et climatiques dans leur localité. Participez aux formations en ligne et envoyez vos vidéos de 3 minutes maximum à concours.epop.network.
Vous avez jusqu'au 12 septembre pour tenter de gagner des bourses de production et des diffusions dans de grands festivals européens. À vous de jouer!